On peut peut-être prendre quelques questions, remarques de la salle. Parce que j'avais plein de questions. J'avais plein de questions générales de chercheurs, quoi. On va les laisser de côté. Et peut-être prendre quelques questions parce que j'ai vu... Alors, je ne sais pas quel est votre nom. Domenech. Monsieur Domenech qui voulait parler. Puis ensuite, monsieur Jacobi. Et puis peut-être... voilà.
Merci. Oui, je trouvais qu'on parlait assez peu des lobbies bien-être animal, anti-élevage, et ça me gênait beaucoup parce que je trouve que c'est quand même un problème majeur. On a fini par en parler beaucoup plus. Alors, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ce lobby anti-élevage, par facilité, ils disent « Ok, l'élevage pastoral extensif, bon, ok, ça marche, les éleveurs aiment leurs animaux, mais c'est sur l'intensification, l'industrialisation, etc. » Mais il y a surtout aussi, là où ça fait mal, c'est quand ils pointent « transport, abattage ». Et pour eux, l'élevage, c'est l'abattage de l'animal. Et les lobbies de communication qu'ils ont sont d'une puissance, on a l'impression que ça emporte tout, quoi. Au niveau du public et des citadins, la diminution de consommation, moi, je le vois autour de moi, ça porte sur le bien-être animal, et puis après vient l'environnement, puis éventuellement la santé, pourquoi pas. Mais sur le bien-être animal, c'est là-dessus qu'ils appuient. Et les images qu'on voit d'abattage ou autre, c'est terrible, quoi, parfois. Et je trouve que les éleveurs dans nos pays, bon, moi je suis de Requista aussi, de l'Edergue précisément, je ne sens pas qu'on les accuse. Je crois qu'on comprend bien qu'ils aiment leurs animaux. Mais il y a le bout, il y a l'abattoir, et là ça fait mal. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein. Évidemment.
Bah, en fait, ça ne devrait pas faire mal. Enfin, je suis désolée.
En termes de communication, je veux dire, en termes d'impact.
Non, mais moi, je crois que par rapport à ça, c'est plutôt que les éleveurs ont... On a démissionné en termes de présence médiatique et de montrer notre métier. Je crois que ça fait partie du métier que de montrer quel est notre travail au quotidien. Montrer... qu'on sort les brebis, montrer qu'on donne du foin, montrer notre métier, notre quotidien. Mais quand je dis quotidien, c'est tous les jours. C'est, je crois qu'il faut reprendre les devants en termes médiatiques. Quand on fait une recherche éleveur de brebis, les premières images, il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas, qui remontaient, c'était des images qui évoquaient le L214 dans une bergerie d'engraissement, tu vois. Ça fait mal, moi je trouve ça... pas normal, c'est pas vrai, c'est déjà les images, elles sont, enfin, je veux dire, on montre, enfin, ce qu'on veut montrer dans des images qui sont, parce que ça s'explique tout ce qu'on a vu, hein, très sincèrement, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a aucun problème avec ça même, mais cela dit, c'est ces images-là qui font foi avec des commentaires, bien sûr, bien léchés, voilà, qui vont droit au but, quoi, qui font mal. Mais pourtant, ça ne traduit pas la réalité de cet élevage-là, parce que ce même élevage, on irait et on filmerait avec l'explication de l'éleveur qui soigne ses bêtes, et bien, je vous garantis, ça s'entendrait totalement différemment. Totalement différemment. Mais, donc, c'est compliqué.
Pour moi, le problème, il vient du nom, en fait. C'est que parler de bien-être animal, un animal que vous filmez en train d'être abattu, vous pouvez le filmer n'importe comment, il ne le vit pas bien. Mais aujourd'hui, il vaudrait mieux parler de bien-traitance animale, parce que là, on aurait des choses factuelles à raconter, que nos animaux, ils sont bien traités. Et la bien-traitance, on est capable de le justifier. Le bien-être, à part de faire des prises de sang d'un animal qui est stressé, ou pas, mesurer le niveau d'hormones du stress, je réfléchissais plus tout à l'heure, je l'ai perdu, mais
le cortisol.
On en a fait des pleins wagons. Effectivement, là, il n'était pas bien. Alors, après, vous réfléchissez pourquoi il n'était pas bien, pourtant il était tout seul. Ouais, mais tout seul, ça ne va pas. Trop nombreux, ce n'est pas bon. Pas, tout seul, ça ne va pas. Bon, et au bout d'un moment, moi, j'ai eu l'ONG Wellfarm qui est venue. Effectivement, je rejoins Jérôme. Je leur ai dit, ah, mais parce que vous allez nous expliquer comment on va bien traiter les animaux. Mais alors, ça bien traiter, je pense qu'on pourra discuter. Le bien-être, à part de me faire des prises de sang et me justifier qu'il est bien ou pas bien, moi, à date, comme ça, je vous défie de me dire s'il est bien ou pas bien. Mais en fait, un animal à l'abattoir, dans la bien-traitance, il y a des process en abattoir. Et toutes les vidéos qu'on voit, c'est des process qui ne sont pas respectés. Parce qu'aujourd'hui, un abattoir, il faut savoir que dans un abattoir, les postes qui sont le plus en turnover, c'est à la bouverie. Et globalement, toutes les vidéos qu'on voit sont liées à de la non-formation de nos salariés. Et aujourd'hui, le fait d'avoir un turnover énorme fait que vous embauchez des gens, parfois en intérim, qui n'ont jamais manipulé d'animaux. Et à la fin, ça fait des vidéos qui sont juste pas normales, quoi. Et dans des outils industriels et dignes de ce nom, ce qu'on voit en vidéo, c'est pas normal, comme on voit des vidéos en élevage qui sont pas normales. Mais tout ça fait qu'il y a des fois, on n'arrive pas à justifier pourquoi c'est arrivé.
Oui, mais exceptionnel.
Ah, mais ça reste exceptionnel, mais comme les vidéos, ils filment pendant 4 jours et ils passent
c'est que pas 3
minutes. Ils passent 3 minutes. Oui, il suffit que vous soyez pas bon 3 minutes, c'est bon.
Oui, voilà, c'est ça, c'est bon. Pas la règle. C'est pas la règle.
Effectivement, tant qu'on dira bien-être, on sera en danger. Bien-traitance, on sait justifier.
Hier, il y avait l'intervention de Charles Stepanov, et qui a beaucoup travaillé sur ces questions de donc qui est anthropologue, qui a travaillé sur les questions de entre autres de mort des animaux et la place des animaux dans les sociétés. Et c'était extrêmement intéressant, et je pense que je ne suis pas lui, je ne parlerai pas aussi bien que lui. Donc j'invite, en fait, ça serait hyper intéressant que la filière demande à ce monsieur de la filière ovine, les filières demande à ce monsieur de venir intervenir pour ça nous donnerait des clés, je pense, pour comprendre ce qui se passe au niveau de la société, enfin ouais, notre société là occidentale européenne, et sur l'appréhension de l'élevage et notre qui se focalise effectivement sur la mort des animaux. De ce que je retiens de ce qu'il a dit hier, en essayant de synthétiser, une réglementation à outrance une réglementation qui est très avancée, qui confisque un petit peu toutes les questions d'élevage aux éleveurs, notamment la mise à mort, et qui confisque aux éleveurs, mais pas que aux éleveurs, mais à l'ensemble de la société, et qui va vers le fait de cacher ça, et que ce soit la mort des animaux ou la mort des hommes, en fait c'est la mort tout court. Et en tout cas dans ce qui se retranscrit dans nos activités d'élevage là, l'hyper spécialisation de l'élevage, le fait de fragmenter tout ça, tout le monde se déconnecte, que ce soit les éleveurs mais la ruralité et la société se déconnectent de toute la relation avec les animaux et la vie, la bête qui m'ébat ou la bête qui meurt, le fait d'être déconnecté de ça, enfin voilà. Après, je pense que c'est pas les filières là, Unicor, Roquefort, les bergers ou tout, qui allons changer ça, mais le fait déjà de l'intégrer, on peut aussi ne pas se tromper, nous, dans qui on cible pour. Oui, mais eux, ils veulent nous expliquer que. Ben, ok, ils seront toujours là à vouloir nous expliquer que. C'est eux qui ont raison sur le bien-être animal. Mais par contre, ça nous permet aussi de répondre de différentes manières, voire faire évoluer nos pratiques à nous, plutôt dans, effectivement, de montrer ou de se réapproprier éventuellement de plus. Parce que c'est rigolo, je reviens à quelque chose que je voulais dire tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure que pour qu'on... Enfin, je ne sais plus qui le disait. Pour un avenir de la filière, il faudrait qu'on se parle plus. Mais en même temps... y a de nouveau ce réflexe de dire non mais là on est éleveur de lait et, enfin éleveur laitier, producteur de lait que de lait et on peut pas être en même temps, bon même si on fait de la viande et puis forcément que du cuir et puis il y a de la laine aussi mais nous on est et pourquoi pas
oui Jérôme le regrettait, le problème ouais, c'est que
c'était regretté, donc là
justement,
donc,
vous êtes d'accord,
rapprochons-nous à fond. Et montrons la vie, enfin la vie, même les mises bas, autant qu'on montrait la mort.
Voilà, y avait Stéphanie qui était là, qui l'association Appelbert. Bon, heureusement, on a une puissance collective. Et du coup, un tout petit peu d'argent. Et on a un animateur pour faire l'animation de tout ça, bien sûr. Et là, on a fait le choix de prendre une animatrice spécialisée en communication pour être présente sur les réseaux sociaux et montrer notre métier d'éleveur. Donc là, vraiment... C'est un choix fort que nous avons fait pour dire ben attends, non, là, on va y aller maintenant. Et on va mettre nos images devant. Et que ça remonte quand on fait des recherches là, sur Internet, qu'on montre les images de notre métier, les vraies images. Quoi. Voilà. Donc, notre petit objectif hein, au niveau brebis, et on n'aura pas l'ambition de plus, c'est de remontrer des vraies images, de montrer des éleveurs dans leur bergerie, de montrer des agneaux qui naissent, de montrer des brebis dehors, de montrer des tracteurs qui sèment, de montrer notre métier, tout simplement, divers et variés.
Merci. Monsieur Jacobi, puis vous interviendrez après. Et puis après, on prendra une petite collation avant de donner la parole aux institutionnels. Oui.
Je voudrais venir vers toi. Là. Tu as dit que s'il n'y avait pas la brebis, il n'y avait pas le lait. S'il n'y avait pas la brebis, il n'y avait pas la laine. S'il n'y avait pas la brebis, il n'y avait pas l'agneau, donc pas la peau. Tu as juste oublié de dire que s'il n'y avait pas l'éleveur, il n'y avait pas la brebis non plus. Quoi. C'est... Bon, voilà.
Mais c'est trivial, c'est implicite.
C'est le danger de commencer, c'est que tu es forcément obligé d'en oublier.
Pour revenir au berger du Larzac, ce qui m'a frappé quand on demande à des éleveurs pourquoi vous avez quitté Lactalis et compagnie pour venir au berger, la première chose qu'ils disent, c'est parce que là, au moins, on est considéré. Et ça, je trouve que c'est important. S'ils étaient autant considérés, ils ne partiraient peut-être pas de Lactalis et autres, ou de Confédération. Et c'est là quand même un problème. Et ce qui je voudrais dire aussi, c'est que peut-être il manque, de la part un peu de tous, ou peut-être pas des bergers, c'est d'avoir confiance en l'éleveur. C'est d'aller trouver l'éleveur pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ta laine ou pas ?» Arrêtons de prendre les gens pour des cons. Et l'expérience que j'ai pu avoir au comité de développement agricole du Sud-Aveyron, lorsqu'on a lancé le programme Clim Forel en demandant aux gens ce qu'ils voulaient faire, on a eu sur le Sud-Aveyron 300 parcelles d'un hectare en test de semences payées par l'éleveur, sans qu'il soit sûr que ça allait donner quelque chose. Et on a eu un engagement des gens. Et ce n'était pas pour récolter des sous, parce qu'il y en a, ça n'a rien donné. Et tout le monde le savait au départ. Mais les gens se sont engagés quand même. Et quand le programme, c'était 2 ou 3 ans, je ne sais plus, c'était avec l'INRA Toulouse qu'on avait fait ça, on dit, ben, on arrête le programme. Les mecs m'ont dit, hey, Jacobi, tu te démerdes, tu vas chercher du pognon, mais on continue. Donc faisons quand même un peu confiance à l'éleveur, et il va aller vers les choses. Si on commence à lui dire, de toute façon, c'est un déchet, là, vous êtes repris après, heureusement, mais on n'est pas producteur de déchets. Si on commence à avoir ce discours-là, c'est sûr que ça va jamais rien donner. Il n'y a pas si longtemps que ça, des vieux éleveurs m'ont dit que quand une brebis crevait, on la tondait pour récupérer la laine. Quoi. C'est pas si... Bon, je suis un vieux crouton, mais quand même. Quoi. Et faisons... Je veux dire, des paysans ont été capables de monter les bergers du Larzac, capables de monter la Scaro. N'oublions pas qu'en son temps-là, Confédération de Roquefort... Chambre d'agriculture, Ovitest a mis dans l'histoire, mais pas les autres. Ils attendaient qu'une chose, c'est que ça se casse la gueule. Et quand on parlait avec Bernat ou Glandière, hein, c'était clair, net et précis. C'était ça, quand même, ce qui s'est passé. Des gens qui s'organisent collectivement en dehors des structures sont mal vus. Alors après, ça va mieux quand ils commencent à réussir. Mais il fallait entendre les discours qu'il y a eu au départ là-dessus. Et quand on parle d'organisation collective des producteurs de lait de brebis, n'oublions pas que quand les quotas laitiers se sont arrêtés, il y a eu des propositions d'organisation de producteurs verticales ou horizontales. Tout le monde a flingué l'organisation horizontale. Tous. Si, je peux te dire dans des réunions, qui que ce soit. Et tous syndicats confondus. Unicor était prêt à s'engager dans l'histoire. On a dit à Jean-Claude, tu restes à la niche. Tu arrêtes. Et là, on voit que quand il y a pu y avoir de véritables organisations de producteurs horizontales avec une maîtrise de volume de production, ça a été non. Et on paye aujourd'hui toutes ces choses-là. Tout cela pour dire que si on veut faire un tant soit peu confiance aux éleveurs, il y en a toujours qui ne sont pas d'accord. Mais ne nous mettons pas des rideaux devant la capacité d'organisation, la capacité d'innovation, et commençons à aller voir sur le terrain, les idées ne manquent pas pour faire des choses.
Merci François. Est-ce que... vous avez quelques éléments de réponse, ou alors on donne la parole à... Parce que c'était plus un commentaire qu'une question, en fait, François. Donc,
C'est une réaction.
Voilà, tout à fait. Allez-y.
Moi, j'ai deux trucs à dire et une question. Juste sur la question d'abattage, même si c'est anecdotique et que ça arrive pas souvent et que ça tombe sur les moments où il y a quelqu'un qui est pas formé, en fait, ça devrait juste pas arriver. Et je voulais juste témoigner d'un groupe là dans l'Hérault qui est vraiment bien monté. Ça s'appelle Abatt Mobile 34. Et du coup, l'abattage à la ferme, là, ça pourrait redevenir une réalité. Et du coup, pour moi, c'est une vraie priorité là d'être autorisé à abattre mes animaux sur ma ferme. Et du coup, là, vous avez des instances qui ont leur mot à dire là-dessus. Je pense que vous avez à un moment, indirectement, quand même. Voilà.
Non, on n'a rien à dire. Mais bien sûr qu'on se bat, ça fait partie des éléments.
Voilà, dans l'Hérault, ça existe.
Mais oui, mais c'est pas nous qu'il faut convaincre, là. En tout cas,
ça existe, et je pense que c'est bien d'en parler, parce que voilà, ça existe dans l'Hérault, et c'est en train de se développer. À mon avis, il faut vraiment qu'on se dirige vers ça, pour les animaux et pour les éleveurs et les éleveuses. Après, le deuxième point que je voulais dire, c'était un peu pareil, on parle des animaux, mais il faut aussi parler des éleveurs et des éleveuses. Parce que on est en train de disparaître là tranquillement et on n'en parle pas. Et si on a cette discussion là, c'est parce qu'il y en a encore qui existent. Et du coup, collectivement, il faut qu'on soit un peu vigilant au fait que l'agrandissement des fermes, c'est un truc qui se passe ici vraiment concrètement. Et que pareil, là, vous faites partie de groupements qui ont leur mot à dire à un moment donné. Donc voilà, faisons attention à ça parce que c'est un vrai problème. Il y a jusqu'au dernier quoi. Et le dernier truc, c'était une question pour vous. Je suis assez surprise d'entendre que vous vous fournissez en Espagne. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et quelle race vous intéresse pour avoir des peaux locales, quoi ? Voilà.
Je ne suis pas un grand spécialiste de l'élevage et des races. Les peaux espagnoles qu'on peut sourcer sont issues d'une filière viande qui est différente, avec des habitudes alimentaires qui sont différentes en Espagne par rapport à la France, où de ce que j'en comprends, de ce que j'en perçois, les animaux sont un peu plus jeunes, les peaux un peu plus petites, les races un peu différentes, et c'est ce qui donne une qualité de peau qui est différente et qui est plus adaptée à notre production à l'heure actuelle.
Ouais. Après, sur la race, ils appellent ça l'entrefin. Sur les peaux, la race la plus adaptée à avoir des peaux similaires, c'est la Lacone. Vous n'en trouverez aucune qui a les qualités de la Lacone chez nous. Elles sont plus grandes que les peaux espagnoles. Et par contre, il y a deux choses qui influent la peau ou la qualité de peau de Lacone. Il y a le piqué de laine. Et ça, c'est génétique. C'est-à-dire qu'on a une laine par rapport sur la Lacone où le poil de laine, quand il sort, il fait un piqué dans la peau qui est plus gros que sur la peau espagnole. Donc en fait, ça équivaut, je crois, à 30% des problématiques de qualité de peau. On a essayé de voir génétiquement avec l'INRA et au Vitest de mesurer l'héritabilité de ce piqué de laine pour voir si c'est... parce que bon, quand vous êtes dans une filière lait, si le gène qui favorise le piqué de laine est contraire à la production laitière, c'est pas gagné.
C'est pas écrit que ce le soit non plus.
Non. Et après, vous avez le buissonnet pailleux. Et là, c'est une procédure de production. C'est que, en fait, pour gagner de la place dans les bergeries, on a mis des râteliers en doublier comme ça. On met la paille et les agneaux, si vous êtes dans les bergeries, sont tous couchés dessous. Et en fait, les barbes de certaines pailles tombent sur l'agneau et pique la peau. Et c'est ce qu'on appelle le buissonnet. Et là, quand vous faites des essais avec des caissons à paille, c'est-à-dire que vous mettez des caisses avec la paille dans des fonds où la paille ne tombe pas sur l'agneau, vous améliorez déjà nettement la qualité des peaux. Par contre, si effectivement vous mettez des caissons et que l'éleveur, il fait comme pour appailler, il prend le reste, il balance ça sur le dos des agneaux, vous n'avez rien solutionné. Mais la Lacone, ça demande des modifications d'aménagement des bergeries et un peu de génétique sur le piqué de laine. Mais sinon, y a du travail à faire. Mais en fait, l'Espagne est en train de se dégrader parce que justement, on a exporté la Lacone massivement en Espagne. Et la peau espagnole, comme par hasard, est moins bonne qu'avant. Oui, en Espagne, ils donnent de l'aliment avec de la paille intégrée. En fait, ils nourrissent les agneaux avec du concentré sans paille. Donc déjà, ils ont résolu le problème de la paille dans l'alimentation des agneaux.
C'est bizarre. Et vous, là, du coup, on travaille sur la qualité de la peau et on travaille sur la qualité de la laine. Pour donner plus de précision sur les races, Mérinos. En fait, le piquet de la laine, c'est il y a plusieurs follicules qui vont développer le poil sur la laine. Et il y a un des follicules qui fait les fibres les plus grosses, qui est effectivement lui aussi plus gros et qui donne une irrégularité sur la peau. Et sur le Mérinos, comme sur la Lacone, ce sont les follicules secondaires qui donnent les laines fines qui sont les plus présents. Et c'est pour ça qu'on a une laine et un cuir de très bonne qualité. Sur que ce soit Mérinos ou Lacone. Lacone, bonne qualité de laine, je redis, fine.
C'est courte, on m'avait dit courte. Moi, on pouvait
pas forcément. Parce qu'on m'a dit courte. On peut faire du. Ah, je suis désolé, vous me relancez. C'est vous qui pouvez me relancer.
Moi, je propose.
On peut faire du fil peigné.
Je me nourris là.
Ouais. On peut faire du fil peigné, c'est-à-dire un fil qui est lisse comme si c'était du coton, avec de la Lacone, parce qu'on a des longueurs de fibres qui peuvent dépasser les 6 à 7 cm. On peut avoir des mèches qui font plus de 7 cm sur de la Lacone. Et à partir du moment où vous avez ça, les voisines chez qui j'étais tout à l'heure ont des mèches de 7 cm. Et on peut faire du fil peigné. C'est un fil qui, normalement, n'est accessible qu'au Mérinos. Et on ne fait que du peigné. Vous allez dans la première mercerie que vous trouvez, vous regardez laine peigné, Mérinos, point, vous trouvez que ça. On peut faire du peigné avec de la Lacone.
Ah ben,
à condition de sélection. La même chose que pour le cuir. Sélection génétique, c'est hyper héritable. Les caractères lainiers sont très, très héritables. C'est-à-dire qu'en quelques générations, donc très, très vite à l'échelle d'un élevage, on peut gagner en qualité de laine comme en qualité de peau. C'est, en fait,
pour la laine, là, il parle d'héritabilité, mais voilà, le standard de la Lacone, c'est l'UPRA qui gère ça. Mais la sélection, je veux dire, s'il y a une brebis qui est sans laine... elle ne fait pas partie du standard de la race, elle sort du circuit. Donc, je veux dire, là-dessus, on a des garde-fous qui font que la rusticité de la race est préservée parce qu'il y a un schéma élu pralacone. Si, tu ne peux pas dire le contraire, le port de la mamelle et ainsi de suite.
On est en train de faire des portes.
Ton avis.
Alors moi, je propose que nous allions goûter. sur ces bonnes paroles. Et après, on inversera le. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la façon dont le territoire marquait vos produits. Mais on donnera la parole aux institutionnels et vous serez réinterrogés là-dessus.